Eh bien voilà. Et bien voilà, on a retrouvé le son de Groland, bien sûr. Et on va rester avec eux un petit moment, puisque c'est le festival du court-métrage, bien sûr, à Quimplage, en collaboration avec Groland. Et bien, ils seront avec nous jusque à peu près 17-18h cet après-midi. Pour l'instant, vous êtes toujours dans l'émission Musique en Stock, quelque peu bouleversée dans la grille des programmes et puis dans le style. Nous sommes avec Bruno pour vous tenir compagnie. Ne l'oubliez pas, n'oubliez pas non plus que vous avez Bruno la semaine prochaine à partir de 7h.
Pour rétro,
et à
8h jusqu'à 9h15 pour Chansonnez-moi à gogo.
Et à 9h15, musique en stock et fond de placard.
Tout à fait, voilà.
Voilà. Et pas d'invité la semaine prochaine?
Non, ça sera au mois d'octobre, je n'ai plus la date en tête. Je pense que ça va être le 12 ou le 13 et ça sera le groupe Les Post-it.
Ah, les Post-it, pas les postiers, les Post-it.
Les Post-it.
Et bien voilà,
ouais, du bon rock à la française, quelque chose de bien, du rentre-dedans.
Ok, on retrouve Groland et puis on retrouve Marcel, la technique, avec une musique assez originale d'ailleurs.
D'accord.
Connaîtra le prix du sang et des larmes. Motivé, motivé,
il faut rester motivé.
Motivé, motivé,
il faut se motiver.
Motivé, motivé,
soyons motivés.
Motivé, motivé,
brava, motivé.
On va rester motivé pour le face à face. On va rester motivé quand on les aura en face.
Motivé. C'était une belle chanson pour illustrer et remercier Gilles Perret qui vient de nous présenter le film Walter, Retour en Résistance, qui, on vous le rappelle, sera projeté ici sur le site du festival du film Groslandais. C'est à 12h30, c'est à l'espace court. Et bien maintenant, on va rester dans l'actualité chaude et brûlante avec un autre documentaire qui est au programme de ce festival.
Une autre forme de résistance.
Une autre forme de résistance très chaude, très dramatique aussi. Il s'agit de la Palestine avec la réalisation d'un documentaire qui s'appelle Bilin, village au pied du mur, réalisé par Eric Bies. Eric Bies, on a le bonheur ici d'avoir dans le studio et avec qui on va à la fois parler bien sûr de ce documentaire et peut-être aussi de l'actualité. Salut Eric.
Bonjour.
De l'actualité en Palestine. J'imagine que si tu as écrit un documentaire, tu as réalisé un documentaire là-dessus, c'est que tu es très concerné, tu y vas régulièrement ou peut-être que tu en reviens ou que tu y retournes. T'as donc la température.
Effectivement, j'y vais régulièrement. Et la dernière fois que j'y étais, c'était au mois d'avril et mai cette année.
Donc, c'est quoi que ça change tous les jours. L'actualité va très vite en Palestine.
Effectivement, il y a une actualité qui va très vite, mais il y a aussi un certain nombre de choses de la vie quotidienne qui évoluent, je dirais, tranquille.
Plus constant,
enfin. Plus tranquillement, enfin voilà, des bases qui restent les mêmes.
Alors ce documentaire, Bilin, village au pied du mur, ben, tout est dans le titre, c'est-à-dire que ça concerne la vie autour ou d'un côté de ce mur de la honte, on peut le qualifier comme ça, en ce qui concerne cette réalisation à l'initiative du gouvernement israélien, j'ai bien dit le gouvernement israélien, qui consiste à séparer et à reconstruire un ghetto, mot qu'il faut aussi utiliser, que j'utilise volontairement dans ce cadre, parce que ça sépare, c'est censé séparer deux populations, deux peuples, malgré les condamnations internationales. Le mur a été condamné par de nombreuses résolutions de l'ONU et de la communauté internationale. Et ben, y a des gens qui vivent au pied de ce mur, ou d'un côté de ce mur, et des deux côtés d'ailleurs.
Effectivement, il y a des gens qui vivent des deux côtés du mur. Par contre, effectivement, dans la présentation, on nous présente qu'il s'agirait d'une barrière de séparation visant à séparer deux peuples. La réalité est tout autre. La réalité du mur, c'est déjà une ligne qui va faire près de 800 km, c'est-à-dire presque trois fois la taille de la frontière, enfin de la ligne verte, hein, c'est, on va dire, la frontière reconnue internationalement.
De 1967. Entre,
voilà. Mais en fait, oui, en réalité, c'est le cessez-le-feu de 1949, mais n'entrons pas dans le détail, c'est la ligne verte, celle que tout le monde connaît,
une ligne officielle.
Et qui est reconnue internationalement. Voilà. Et donc, si ce mur va faire presque trois fois la taille de cette frontière, eh bien, c'est tout simplement parce que, bien plus que de séparer les Israéliens des Palestiniens, il sépare les Palestiniens des Palestiniens.
En plus.
Voilà. Par exemple, la ville de Qalqiya, qui est la première région productrice de légumes de la Cisjordanie, est totalement encerclée par le mur. Mmh. Aujourd'hui, il est quasiment impossible pour quelqu'un du nord de se rendre dans le centre ou encore plus bas au sud de la Cisjordanie.
À l'intérieur de la Cisjordanie, il y a déjà, ça y est, des séparations physiques.
Complètement.
Donc c'est ce qu'on appelle les Bantoustans.
Effectivement, il y a...
C'est la réalité maintenant, c'est la réalité de 2009.
C'est une réalité.
Ouais. Ce qui, évidemment, provoque quoi au niveau de la vie quotidienne de ces gens qui se retrouvent coincés complètement
Une paralysie de l'économie, bien sûr, mais bien plus grave, je dirais une paralysie sociale, familiale, humaine, parce que du coup, ça devient également très difficile de rencontrer tout simplement les membres de sa famille, dès l'instant qu'on n'habite pas la même ville. Voilà. Mais en même temps, ça produit aussi des choses qui redonnent, enfin, qui montrent toute cette capacité humaine.
C'est l'objet de ton documentaire.
Tout à fait, c'est l'objet de mon documentaire. C'est-à-dire que à Bel Aïn, quand le mur est arrivé, ces paysans à qui on prenait 70% de leur terre. Quand même.
De leur terre qui est de la culture.
De leurs oliviers.
De leurs ressources.
Tout à fait, de leurs ressources. Eh bien, ces gens ont commencé tout simplement à s'enchaîner sur les oliviers.
Leurs oliviers.
Et puis, ils ont manifesté, et encore manifesté, et toujours, simplement avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire leurs mains et leur volonté et leur imagination. Et ça a donné naissance à une résistance non violente. Et depuis 4 ans maintenant, enfin plus de 4 ans, 4 ans et demi, tous les vendredis, ils s'opposent à la présence de ce mur.
Donc c'est ça qui est intéressant, c'est une nouvelle forme de résistance qui est en train de se mettre en place en Palestine, après les deux formes de résistance qui l'intifada et la...
Là c'est complètement non-violent.
Totalement.
Et ça perturbe les Israéliens, parce qu'à un moment donné, c'est plus les sauvages. Non, mais quelque part, on va résumer le truc.
Effectivement, en même temps, c'est un petit peu une image caricaturale. Ce que je veux dire, c'est que les Palestiniens sont des êtres sociaux comme les autres, et qu'ils ont aussi subi d'autres influences. Et donc, par exemple, dans la période des années 60, où on avait Martin Luther King, où on sortait de Gandhi, où il y avait eu des grands mouvements pacifistes comme ça, et bien en Palestine, au moment de 67, il y a eu aussi un mouvement non-violent. Et ce mouvement non-violent, il a donné naissance à diverses organisations, dont une qui existe toujours et qui est très connue, qui s'appelle Medical Relief. Et si Medical Relief est très connu, c'est simplement parce qu'il s'agissait de médecins qui, en violation de la loi israélienne, se rendaient dans les camps de réfugiés pour aller soigner les gens gratuitement. Et ensuite, quand ils se faisaient prendre, ils allaient en prison, puisqu'ils distribuaient des soins gratuitement, ce qui était interdit. Mais cette organisation-là...
Interdit par qui ?
Par Israël.
Non, il faut le dire, parce que...
Tout à fait. Ce qu'il faut dire de cette organisation, si j'en parle, c'est parce qu'elle a été primée par l'UNESCO en 1971, et qu'ensuite, elle a donné naissance dans le monde entier des mouvements de médecins un peu équivalents. Et en France, c'est comme ça qu'un certain Bernard Kouchner a créé Médecins sans frontières. Médecins sans frontières. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas inventé un truc.
Il n'a rien inventé.
C'était le mouvement pacifiste palestinien de 1967 qui a inventé ce concept.
D'accord.
Je voulais rendre à César ce qui appartient à César.
Tout à fait, tu as raison.
C'est important.
Et c'est en effet sur fond de commerce.
Et ce film-là, donc, il est sorti déjà ou le documentaire est déjà sorti ou c'est simplement là
Effectivement, il est déjà sorti.
Et donc, j'allais te demander quelles sont les réactions du public par rapport à ça. Est-ce que c'est un public militant qui est présent ou t'as des...
Oui.
Parce que la difficulté, elle est là aussi. Je veux dire, c'est vrai, de diffuser de l'information, un documentaire sur la Palestine, souvent, bon, ben, on a les militants qui connaissent plus ou moins la situation.
Et puis la difficulté par les obstructions.
Pour les autres, je veux dire. Vu ce qu'on nous entend parler à chaque fois sur Israël, la Palestine et tout ça, sur les murs, parce que ce que j'allais te dire, c'est que maintenant, on est en train de célébrer le mur de Berlin qui s'écroule et tout ça. Là, il y a des murs de partout qui se montent, que ce soit au Mexique, que ce soit en Palestine.
À Chypre.
Donc c'est pour ça que je voulais te poser la question.
Alors, effectivement, il y a assez fréquemment, essentiellement, des militants qui viennent voir ce film. Enfin, ou des gens qui se sentent vraiment concernés. Parce que pour beaucoup de gens, le thème de la Palestine... Ça fait un peu peur. On ne sait pas trop de quoi il s'agit. Est-ce que finalement, il y a vraiment une solution à ce truc-là ? Qui est qui fait quoi ? Donc, il y a une certaine difficulté à aborder le sujet. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas exclusivement... Enfin, c'est pas j'ai envie de dire, c'est une réalité. Il n'y a pas exclusivement un public militant. Et en fait, ça dépend des lieux de diffusion.
D'accord.
Et ici, j'ai eu un exemple absolument formidable. Parce qu'en fait, la projection devait avoir lieu à 16h30 à la Géode. Et puis pour des petites raisons techniques, elle a été reportée. Elle a été reportée à 21h30. Et comme les projections avaient pris du retard, finalement, elle a eu lieu à 22h, au moment où il y avait tout le public qui venait voir Villemolle.
Ouais.
Et donc là, j'avais pas spécifiquement le... Il y avait un vrai mélange, ouais. Par le jeu de circonstances, il y a eu un vrai mélange du public. Et j'ai vraiment été content parce que le documentaire a été bien accueilli. Il y a eu des réactions pendant le film et après le film qui étaient vraiment très, très, très positives. Et ça, moi, ça m'a fait un immense plaisir. Et ça montre une fois de plus qu'il faut cesser de prendre les gens pour des idiots.
Tu peux dire pour des cons. Ça, c'est pas un gros mot, là.
Ouais.
D'ailleurs, on a entendu, nous, on était à l'extérieur, tout le monde applaudir.
Il y avait des réactions. C'était sans être dans la salle. On se disait, tiens, il doit se passer des choses. Ouais. Et c'était impressionnant. Enfin,
Vu de l'extérieur.
Ouais. Effectivement, à l'intérieur, je peux vous dire, c'était impressionnant.
C'était aussi impressionnant.
Oui. Ouais.
Alors, la vie quotidienne, tu l'as filmée comment là-bas ? Avec des acteurs, avec des témoins, comment ? Parce que là, c'est des gens qui parlent dans ce documentaire.
Effectivement, c'est des gens qui parlent dans ce documentaire. Non, je n'ai aucun acteur. Moi, je suis d'abord journaliste. Donc,
c'est du reportage.
Voilà, c'est du reportage. Ce que je fais, c'est que je vis chez l'habitant et que parce qu'il y a des moments qui sont très difficiles à saisir si on n'est pas inséré dans le quotidien. Voilà. Et étant donné la démarche que je voulais, qui était justement de rapporter cette vie quotidienne, parce que pour moi, on ne peut pas comprendre un engagement non violent qui est quelque chose de fort, parce qu'on parle de manifestations non violentes, mais ça va bien au-delà de ça. L'engagement non violent, c'est le risque d'aller en prison, mais c'est aussi modifier beaucoup de choses dans sa vie quotidienne. Et donc pour pouvoir aller saisir ces petites choses qui changent dans la vie quotidienne, pour moi, il n'y avait qu'un seul moyen, c'était de m'insérer dans leur vie.
Parce qu'on imagine que les gens, les Palestiniens qui vivent ça au quotidien,
Il y en a qui, comme tu l'expliques à l'instant, doivent intégrer et puis faire des analyses et rester non-violents, mais il doit y en avoir aussi un paquet qui ont envie de rentrer dans l'art ou de...
Effectivement, mais là tout de suite, il y a un exemple qui me vient à l'esprit. Par exemple, pour ces gens qui pratiquent la non-violence, un des premiers problèmes qu'ils ont eu, c'était la confrontation entre l'armée et les jeunes. Et par exemple, puisque moi je m'insérais dans leur quotidien, bah, une des choses que je faisais, c'était aller chercher des enfants ou le jeune de la famille où j'étais à la sortie de l'école. Et un jour, je me pointe là-bas avec ma caméra, puis je fais quelques plans comme ça, et puis tout à coup je remarque qu'à 50 mètres de l'école stationne une Jeep de l'armée israélienne. Alors là, je me dis, il y a quelque chose qui n'est pas du
habituel.
Bon, et puis la sortie de l'école sonne, et comme j'avais ma caméra sur le pied, les gamins courent vers moi comme tous les gamins du monde, hein, vous savez, en hurlant, en criant. Et moi, je filme ça parce que c'est quelque chose qui fait plaisir. Toujours ces enfants qui viennent à vous comme ça, c'est toujours
émouvant.
Voilà, émouvant. Et puis tout à coup, les enfants qui sont devant moi se figent, s'immobilisent. Et je les vois partir dans tous les sens. Et cette fois-ci, les cris changent. Et là, je me dis, c'est pas possible, il se passe quelque chose. Et moi, j'ai ma caméra dans les mains, je me retourne, et je vois cette fois-ci non plus une Jeep, mais plusieurs véhicules militaires. Et là, je peux vous dire, enfin, on n'est pas à l'aise dans ces moments-là. Parce qu'on se dit, si les gamins ont eu peur, il y a une bonne raison. Et toi, t'es là tout seul, au milieu, comme une cible. Enfin, t'es... Enfin, voilà.
On n'est pas habitué à ce genre de situation.
Et en fait, après, les parents m'ont expliqué ce qui se passait. L'armée, de temps en temps, plus ou moins régulièrement, passe comme ça au moment de la sortie de l'école, c'est-à-dire dès qu'il y a la sonnette de l'école, et le but est de provoquer des jets de pierre. Parce que s'il y a jets de pierre, pour eux, ça veut dire arrestation.
Prétexte pour
intervenir et arrêter. Et donc, une des choses que font ces organisations non-violentes en Palestine, eh bien, c'est d'accompagner les enfants, déjà dans l'école, pour leur expliquer quelle est leur démarche, leur expliquer en quoi il ne faut pas répondre à ces...
provocation.
À ces provocations, en quoi c'est des provocations. Et ensuite, c'est d'être présent à la sortie de l'école. Et tous les enfants, sans exception, même ceux qui rentrent chez eux à pied, sont raccompagnés. Vous voyez, quand je vous dis que ça touche la vie quotidienne, bah oui, ça touche la vie quotidienne. Et ça touche aussi d'autres secteurs comme la santé, comme les transports, l'économie, etc. Voilà.
Oui, justement, je voudrais vous poser une question. J'ai eu la chance de faire partie de ce public qui a applaudi largement et chaudement, je crois, pour reprendre l'expression de Pierrot à la fin. Je veux revenir sur un témoignage, je pense que, enfin, c'est pas un témoignage, c'est lors d'un discours du ministre de l'Information palestinien. Vers la fin de ce documentaire, il y a peut-être quelque chose que j'ai pas bien perçu ou j'ai du mal à le réexprimer. Donc, quand il parle effectivement du pouvoir des médias, de l'information falsifiée, entre autres sur Gaza qu'on dit libérée, mais que Gaza n'est pas libérée. Et là, je crois que vous parlez effectivement que même insidieusement, au niveau des Palestiniens, que ce soit le Hamas, le Fatah, pardon, ou même la gauche palestinienne, eh bien, on pourrait donner l'illusion qu'il y a un Gaza libéré. Je ne sais pas si vous revoyez cette formulation.
Tout à fait.
Alors oui, si vous pourriez nous apporter peut-être un éclairage à ce niveau-là.
Oui, ben, tout à l'heure je disais que les Palestiniens sont des êtres sociaux comme les autres, et bien ils ont aussi des organisations politiques qui, par certains aspects, ressemblent aux organisations politiques qu'on peut trouver ailleurs. Bien sûr, elles ont leurs particularités, voilà, parce que ce sont quand même des organisations palestiniennes. Mais dans ce qu'on peut trouver en commun, et bien oui, au moment où les colons sont partis de Gaza, puisqu'en fait Gaza n'a pas été libéré effectivement, mais simplement les colons sont sortis de l'intérieur de Gaza.
Les mots sont importants.
Eh bien, il y a eu des organisations palestiniennes qui, voyant la presse, et y compris la presse internationale, s'emballer, ils se sont dit, oui, c'est grâce à moi en fait, c'est parce que moi j'ai demandé comme ça, c'est parce que moi j'ai fait ça, qu'il y a cette libération de Gaza. Voilà. C'est très facile de s'engouffrer dans l'erreur des mots, parce qu'effectivement, on a parlé d'une libération de Gaza, alors qu'en réalité, il s'agissait simplement de l'évacuation des colons qui étaient à l'intérieur de Gaza.
Un enfermement.
Mais Gaza restait totalement enfermé. Et même pire, comme le dit ce ministre palestinien, enfin ex-ministre palestinien, l'enfermement a été resserré. C'est-à-dire, par exemple, il prend un exemple qui est celui de la pêche. Les pêcheurs pouvaient aller jusqu'à une quarantaine de kilomètres des côtes et ramenaient en moyenne 180 tonnes de poissons par mois. Et aussitôt après la sortie des colons, cet espace a été extrêmement réduit, c'est-à-dire divisé par 4. Ils ne pouvaient plus caler qu'une dizaine de kilomètres seulement de leur côte. Et ils sont tombés à 30 tonnes seulement de poissons, c'est-à-dire de pêcher par mois, parce qu'ils ne pouvaient plus pêcher plus, puisque dès qu'ils allaient au-delà, ils se faisaient tirer dessus par les navettes de l'armée israélienne.
Et donc, qu'est-ce qu'ils bouffent ?
Ben, ce qu'ils bouffent, c'est, ça a été donc dans un premier temps l'aide humanitaire. Ça reste aujourd'hui un peu l'aide humanitaire, et je dis un peu, puisque cette aide est... Enfin, il y a toujours un nombre limité de camions qui peut rentrer dans Gaza.
Israël limite. Un bel euphémisme.
Bel euphémisme. Mais non, mais un problème, c'est de donner un chiffre. Parce que je peux vous donner un chiffre. Voilà. Le gouvernement israélien autorise l'entrée en moyenne de 800 camions par jour. Mais qu'est-ce que c'est que 800 camions par jour ?
Pour une population
Population d'un million et demi d'habitants. Mais même pour le commun des mortels, on a du mal à se rendre compte. Parce que par exemple, mais je vais vous donner un exemple pour qu'on puisse concrétiser. Les organisations humanitaires estiment, puisque l'électricité est fournie à partir du pétrole, que d'autre part, on a besoin également du pétrole pour faire tourner les ambulances et faire tourner à minima les services publics, comme le ramassage des ordures. Il faut un litre d'essence par jour et par habitant, au minimum, simplement pour les services minimum. Et bien rien que cela, rien que pour fournir ce besoin minimum, c'est 350 camions. C'est-à-dire que c'est la moitié des camions.
Du quota.
Du quota. Et là-dessus, je n'ai pas parlé de l'alimentaire, je n'ai pas parlé des soins, je n'ai pas parlé du matériel que vous pouvez avoir besoin pour reconstruire ou construire. Enfin, je n'ai parlé de rien.
D'un service pour minimum. Cultiver, pour bosser.
J'ai seulement parlé d'un service minimum qui concerne une matière, l'essence.
Voilà. Moi, je crois qu'il y a eu aussi cet exemple qui a été donné au niveau des différences. Donc, d'une part, le kilo de sucre coûte aussi cher à Tel Aviv qu'à Kabylie, et de savoir qu'en définitive, le revenu par habitant était de 800...
À peu près 850 dollars, on va dire,
par rapport à 17 000 à Tel Aviv. Bon, ben là, je crois que ça aussi, c'est un exemple concret, et on imagine bien, quoi. Alors que, bien, le kilo de sucre coûte aussi cher d'un côté comme de l'autre. C'est des exemples qui ont été vraiment... Je crois que tout le documentaire est comme ça. Je pense que on l'a vécu comme ça, d'exemples de précision, simplicité, clarté.
Ce qui m'a surpris aussi, c'est vraiment, le nombre de représentants des autres pays. Il y en avait de partout.
Ouais.
Je crois que ça commence à devenir planétaire, en fait, la prise de conscience de cette injustice.
Effectivement, et là, c'est aussi une bonne nouvelle pour moi, parce qu'en fait, j'ai continué à me rendre à Belaïn et à me rendre également dans les autres villages, puisque désormais, cette résistance non violente se pratique dans 35 villes et villages de Cisjordanie. C'est-à-dire que ce qui a été fait à Biline a fait des petits. Et cette année, il y avait encore plus de représentants internationaux. Il y avait aussi des représentations officielles. Moi, je pense par exemple à Jimmy Carter.
Qui a pris position.
Voilà, qui a pris position.
Stéphane Hessel.
Stéphane Hessel.
Incontournable.
Tout à fait.
Un avocat magnifique, là.
Oui, alors quand même deux mots sur Stéphane Hessel. Stéphane Hessel est un juif né à Berlin, réfugié en France en 1937, et qui, dès janvier 1941, va rejoindre De Gaulle. Donc ensuite, il est arrêté, déporté à Ravensbrück, arrêté à Lyon lors d'une opération de la résistance, donc déporté à Ravensbrück. Il arrive à s'évader grâce à un de ses camarades qui était atteint du typhus et qui donc savait que pour lui, c'était fini. Et puis, à la sortie de cette Seconde Guerre mondiale, il devient le premier ambassadeur de France à l'ONU. Et à ce titre, il est l'un des 18 co-rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Quel parcours ! Et cet homme, à 90 ans, à l'âge de 90 ans, lui qui a soutenu, bien entendu, la création de l'État d'Israël, pour lui, c'était un espoir formidable en tant que juif. C'était effectivement, enfin, pouvoir trouver un refuge. eh bien, il a honte aujourd'hui de la façon dont se comporte le gouvernement israélien, mais il ne s'arrête pas à ce sentiment. À l'âge de 90 ans, il était avec les manifestants non-violents à Biline. Okay, il prend l'avion de Paris. Alors, jusqu'à Tel Aviv, et ensuite il se rend dans les territoires.
C'est intéressant parce que tout à l'heure, on a rencontré Gilles Perret qui parle d'un résistant, Walter, qui il nous a parlé du même personnage.
Stéphane Hessel qui fait aussi partie de ce... Il est sur tous les fronts.
Sur
tous les fronts, Stéphane Hessel. Ouais. Il a d'ailleurs aussi pris position très activement au mois de janvier dernier quand l'État d'Israël a attaqué d'une façon...
a écrasé la bande de Gaza.
Oui,
Oui. Si vous permettez, j'aimerais réagir à ce qui vient d'être dit, simplement en apportant deux petites précisions, parce que je pense qu'il y a des choses qui méritent d'être dites. La première chose, ça a été l'inaction de la communauté internationale. Et la seconde chose, ça a été le mensonge médiatique. Dans les journaux, c'est vrai que les conditions de travail ne sont pas idéales et que très souvent, on travaille avec des communicants. Et ça, bien évidemment, le budget communication, par exemple, de l'État israélien...
C'est un peu plus important que...
Il est 100 000 fois supérieur. Et la première chose qui a été dite, qui était totalement fausse, et une parmi d'autres, ça a été le fait que Israël répondait à des tirs de roquettes. La réalité, si les journalistes avaient fouillé un tout petit peu dans leurs archives, c'est qu'il y avait eu une attaque dans la nuit du 5 au 6 novembre de l'armée israélienne sur Gaza.
Qui rompait un cessez-le-feu.
Que cette attaque avait causé la mort de 6 Palestiniens, dont 4 civils, et que c'était la première rupture du cessez-le-feu. Et que c'est à la suite de cette agression qu'il y a eu des tirs de roquettes. C'est pas du tout que... Ça ne reste pas moins que les tirs de roquettes sont condamnables. La commission de l'ONU qui vient de rendre son rapport le rappelle à juste titre, lancer des roquettes à l'aveugle sur des civils, ça reste un crime de guerre, bien évidemment. C'était juste pour rétablir l'ordre des choses, le courant des choses. La chronologie des événements et pour sortir d'un mensonge. Voilà.
Alors, a priori, je ne sais pas s'il est passé, il y avait un deuxième court-métrage sur Salah, mon fils, parce qu'il faudrait peut-être rappeler aussi un peu qui est Salah.
Salah Amouri.
Voilà. Qui est un Français.
Franco-palestinien.
Et donc, a priori, si on suivait la logique d'un certain Nicolas, qui aurait été, soi-disant, que tout Français aurait eu des ennuis, on irait le chercher, avec comme par dents. Hasard, c'est le seul...
Ce sont ces mots. J'irais le chercher avec les dents.
Avec les dents, c'est le seul...
Bon communicant aussi, ça.
Qui reste encore en prison et qui, a lui aussi, a vit des moments effroyables, étant donné qu'il
a été condamné par quelque chose qui est absolument illégal, un tribunal en zone occupée d'une puissance occupante, c'est absolument interdit par toutes les conventions internationales. Et là aussi, ça passe...
comme une lettre à la poste. Ouais.
Il en a pris pour 7 ans, il n'a rien commis, il est en prison. Et puis, notre président bien-aimé, et puis les professionnels des droits de l'homme que l'on connaît à tous les coins des grands, entre guillemets, médias, c'est le silence radio absolu pour Salah Amouri. Tu as des informations sur ce documentaire qui est passé hier?
Effectivement, oui, j'ai des informations, puisqu'en fait, ce documentaire, c'est donc... je l'ai tourné donc au mois de mai.
C'est toi qui l'as tourné, d'accord.
Oui, je suis le réalisateur.
Ça tombe bien.
Je l'ai tourné donc au mois de mai cette année, puisqu'en fait, j'ai profité du fait que je retournais en Palestine suivre... l'évolution de la résistance non-violente. Et comme j'étais un petit peu avec Jean-Claude Lefort, avec Stéphane Hessel, encore une fois, parmi les premiers signataires de l'appel du Comité national de soutien pour la libération de Salah, eh bien, j'ai dit, je vais aller rencontrer sa famille, sur place, ses amis, et puis essayer de faire un portrait de ce gamin, parce que c'est quand même pas possible qu'on soit depuis 4 ans en prison, que d'un côté... Il y a donc un gouvernement israélien qui nous le présente comme un terroriste, que de l'autre côté, on a un gouvernement français qui ne dit pas qu'il est un terroriste, mais qui ne dit pas non plus qu'il n'est pas un terroriste.
Qui ne dit rien.
Qui ne dit rien. Qui se contente de demander la clémence. Il ne demande pas la libération. Il demande un geste de clémence. Comme si ce jeune homme avait commis quelque chose de grave. Donc j'ai dit, je vais aller m'intéresser à ce gamin.
On va peut-être rappeler aux auditeurs ce qui s'est passé. pour oui. quelle raison il est en prison.
Et pourquoi il est franco-palestinien? C'est parce que sa maman, Denise Amoury, est française.
Oui. Tout à fait. Donc il est né à Jérusalem-Est, d'un père palestinien et d'une mère française. Et donc ce jeune homme vivant à Jérusalem, un jour est passé dans une rue de Jérusalem où habite le rabbin Yosef Ovadia, qui est le chef des intégristes, enfin d'un des partis intégristes, le Chasse, le parti le plus puissant parmi les intégristes, qui a donc qui a eu même une représentation.
Intégriste juif, il faut préciser.
Oui, intégriste juif, il faut préciser. Et bon, bah, voilà, donc il est passé dans cette rue, ma foi, il y avait des caméras vidéo, enfin normal, quoi.
Sans rien faire.
Il est passé dans une rue de Jérusalem, une ville où il habite.
Devant le domicile de ce rabbin.
Et trois mois plus tard, alors qu'il passait un checkpoint, puisque de Jérusalem pour aller à Bethléem, bien qu'il n'y ait que 15 km et que l'université, enfin qu'il y ait une importante université, vous passez par des checkpoints. Eh bien, il est arrêté à ce checkpoint et mis au secret. Et puis, quelques jours plus tard, sa famille apprend, stupéfaction, qu'il est accusé de tentative d'assassinat sur ce fameux rabbin parce qu'une caméra l'avait filmé trois mois plus tôt passant dans cette rue. Alors, le jour de son arrestation, la police israélienne débarque chez les parents de Salah. Ils ont tout fouillé. Quand je dis tout fouillé, ils ont démonté la tuyauterie, pris son ordinateur, démonté les fenêtres. Vous savez, des fois qu'on puisse cacher des choses
dans
les câbles.
Les méthodes qu'on connaît bien.
Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils ont fait leur travail
à fond.
À fond. De façon très méticuleuse. Ils ont absolument rien trouvé. Pas la moindre preuve, pas le moindre début de quelque chose. Et malgré cela, il a été, finalement, après trois années de prison, de détention administrative, il a été condamné à 7 ans de prison. Sans aucune preuve, sans aucun
prévu. Et par un tribunal absolument
illégal.
Et en
plus, par un tribunal totalement illégal, il faut le rappeler, effectivement, puisque dans le droit international, un tribunal militaire d'une puissance occupante ne peut juger l'occupé, et ce qui se comprend.
Ben, bien sûr.
Parce que vous êtes forcément jugé parti quand c'est comme cela. Il suffit, par exemple, simplement de se porter à notre histoire, notre histoire de France. Le tribunal militaire qui a condamné, pendant la guerre d'Algérie, aussi bien des Français que des Algériens, l'affaire se contentait simplement de suivre et d'appliquer ce que demandait l'accusation, sans jamais avoir la moindre preuve, le nombre d'innocents condamnés à ce moment-là aussi était important.
Et donc, Salah se trouve en prison pour 7 ans. Et il y a de multiples tentatives de rencontrer le président de la République. Je crois qu'il y a quelques jours ou quelques semaines, la maman et le comité de soutien ont été reçus par le troisième concierge de l'Élysée, en gros, c'est ça?
C'est ça, exactement, le troisième concierge de l'Élysée.
D'accord. Et que ça n'a abouti à rien?
Ça n'a abouti à rien pour l'instant. Et c'est pour cela qu'on invite actuellement donc les gens, et notamment sur Internet, vous trouverez assez facilement, vous tapez Salah Amoury, S-A-L-A-H, et Amoury, H-A-M-O-U-R-I, vous tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche et vous trouverez le site. Et on a lancé une campagne de cartes postales à envoyer à l'Élysée pour demander au président de la République de recevoir Denise Amoury, comme il l'a fait pour les parents d'Ingrid Betancourt, enfin pour la famille d'Ingrid Betancourt, mais aussi pour la famille de Gilad Shalit,
et la jeune mexicaine
de Florence Cassé, ouais. Effectivement, au Mexique, etc., etc. Ce qui est
le rôle de notre responsable,
tout à fait.
Président de la République.
Mais malheureusement, il ne le fait pas pour l'instant.
On peut aussi écrire à Salah Amoury, on a toutes les infos par le comité de soutien sur le site que tu viens d'évoquer.
Effectivement. Mais là, je demanderai aux gens d'être très attentifs. D'une part, notez scrupuleusement l'adresse. D'autre part, timbrez bien à 85 centimes d'euros. Hein ? Parce que le nombre de gens qui me disent la lettre m'est revenue, mais on n'avait pas timbré ou pas écrit ceci. Voilà. D'autre part, sachez qu'en moyenne, une lettre, elle met 2 mois à lui parvenir. Pourquoi ? Simplement parce que, bien naturellement, je dirais. Il y a des lenteurs administratives, c'est-à-dire que tous ces courriers sont ouverts et lus avant de lui être remis, tout simplement. Voilà.
Ok. Voilà. Donc, ça, c'était la situation pour Salah Amoury. Là, on évoquait juste avant dans le documentaire sur la vie au pied du mur. D'ailleurs, on utilise le mot mur, mais c'est bien léger. Toi, tu l'as vu de près, ce mur. C'est autre chose qu'une barrière de démarcation.
Effectivement. Alors, on dit le mot mur, et en plus, très souvent, on voit l'image de ce mur en béton très haut. Alors, ce mur en béton très haut, il représente en fait, il a cette forme sur environ 20% de son tracé. C'est-à-dire quand il y a 100 km, 20 km sont construits comme ça au maximum. Et en fait, ça ne concerne que les zones très urbaines, comme l'intérieur de Bethléem. Parce que des choses qu'on aurait pu dire aussi, c'est que le mur passe à l'intérieur des villes palestiniennes.
Comme à Berlin.
Par exemple, la famille Amouri, dans le documentaire qu'on aura sûrement l'occasion de voir en d'autres lieux, sur Salah, vous voyez le mur et la famille Amouri est du côté de Jérusalem-Est qui se trouve maintenant, je dirais, entre guillemets, côté palestinien. Et c'est également de ce côté qu'il y a le grand stade de foot de la ville de Jérusalem. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la majorité des habitants de Jérusalem-Est, qui sont eux côté intérieur, enfin côté extérieur du mur, côté israélien, eh bien ils ne peuvent même plus aller voir un simple match de foot. Parce que pour aller voir un match de foot, il faut faire trois quarts d'heure de route. Mais surtout, il faut passer par un checkpoint.
Où là, on peut être
bloqué. Là, vous descendez, vous ne pouvez pas prendre votre véhicule pour passer ce checkpoint. Hein, ne rêvez pas. Vous prenez les transports collectifs. Et vous pouvez être refusé de passer à l'aller comme au retour. Alors, à l'aller, ça veut dire que vous n'allez pas voir le match, vous rentrez chez vous. Mais si ça vous arrive au retour, eh bien, vous ne pouvez même pas rentrer chez vous, tout simplement. Donc, enfin... Vous voyez les absurdités.
Ça demande pas Ubu, c'est Kafka, là.
Voilà, mais si vous voulez Ubu, il y a un paysan qui se trouve donc également du mauvais côté du mur et qui a un chameau et des chamelles. Et ces chamelles ne peuvent plus paître dans la campagne palestinienne parce qu'elles ne peuvent pas franchir le mur.
C'en est vraiment. Voilà.
C'est aussi bête que ça, parce que le mur a été construit là, à la limite de son champ. Voilà.
Et ce mur, tu avais commencé par décrire un peu ce dont...
Oui, pardon. Ouais. Dans les villes, c'est effectivement un mur de béton très haut avec des caméras, des barbelés, tout ce que vous voulez. Mais pour l'essentiel, le mur est en fait large comme une autoroute et il est en fait constitué de barbelés,
ça fait une cinquantaine
d'un grillage,
de mètres,
d'une route réservée aux militaires israéliens, d'un autre grillage qui est en fait une barrière de détection électronique, c'est-à-dire dans lequel il y a plein de systèmes qu'on invente aujourd'hui. Ensuite, il y a à nouveau des barbelés, une autre route, qui cette fois-ci, celle-ci est ouverte également aux colons, et à nouveau des barbelés. Donc vous voyez la largeur, donc quand on vous dit que ce mur est construit sur les terres palestiniennes, essayez d'imaginer ce que ça représente quand une autoroute traverse les champs d'un agriculteur. Mmh. Voilà.
Et le problème de l'eau aussi, parce qu'il semblerait que c'est un problème fondamental en Palestine et que le mur, il a été aussi un prétexte pour s'accaparer ou disons aller pomper quelques réserves d'eau ou quelques puits pour les faire passer d'un côté à l'autre.
Effectivement, bon, déjà la première constatation, c'est que le mur prévoit de séparer totalement la vallée du Jourdain de la Cisjordanie. Donc ça voudrait dire... l'annexion pure et simple de la vallée
des
du Jourdain, et donc là, de 90% des ressources en eau. Mais tout à l'heure, par exemple, je vous parlais de Qalqilya, qui a été totalement encerclée par le mur, et je vous disais aussi que cette ville, que cette zone est la première région productrice de fruits et légumes de Cisjordanie, enfin la principale.
Ça rejoint le coup du poisson que tu nous racontais tout à l'heure à Gaza.
Eh bien, il y a un paysan qui avait là-bas 70 puits. Ils ont fait passer le mur dans ces champs. Et après le passage du mur, il ne lui restait que 17 puits. C'est vous dire
si du vol.
Le tracé du mur avait été étudié pour lui prendre le maximum de puits possible.
C'est voilà. Du vol. Ouais. Ben, je crois, Eric, tu y retournes bientôt là-bas ?
En début d'année.
Ouais.
Quelques mois.
Tu disais que tu étais journaliste, hein, c'est ça ?
Oui.
Donc, tu travailles pour en freelance ou...
Oui.
D'accord. Et tu as le grillé, là, maintenant.
Ça dépend des réseaux.
Voilà, ça dépend des réseaux. Il y a des endroits où on peut encore bien travailler.
D'accord. Tu as un sujet, tu as déjà une idée de ce que tu vas aller faire là-bas, là, pour ton prochain séjour ? Tu as un documentaire qui va sortir, un film ?
Oui. Ouais. Ça va être conclure le travail que j'ai commencé, en fait. C'est pas un nouveau documentaire.
Voilà. Je dis...
Ce que je peux dire, quand même, juste un dernier mot, hein, c'est depuis le mois de juillet, la résistance non violente subit des agressions de l'armée israélienne suite à des directives de façon très claire qui ont été données visiblement par le gouvernement de M. Netanyahou.
L'armée obéit.
Voilà.
Comme toutes les armées.
Donc par exemple, pour l'avoir vécu là-bas, puisque tout à coup, à 2h du matin, j'ai entendu d'énormes bruits. Ce bruit, c'était des grenades assourdissantes qui sont lâchées dans le village au milieu de la nuit. Ensuite, dès que vous sortez, ils lâchent des gaz lacrymogènes. Et puis ensuite, ils rentrent dans quelques maisons au hasard et ils arrêtent principalement les jeunes entre 12 et 18 ans. Ces jeunes sont ensuite gardés en détention administrative pendant un mois, deux mois, trois mois, et ils tentent de leur obtenir des aveux forcés comme quoi ils auraient lancé des pierres et qu'ils auraient lancé ces pierres sur ordre des dirigeants des comités populaires de résistance non violente. Voilà. C'est vous dire, vraiment actuellement, ces Palestiniens non violents ont absolument besoin de nous. Et moi, je vous invite à vous adresser à votre ministre des Affaires étrangères et à lui parler de ces manifestants non violents et à dire qu'il doit intervenir pour que les violences commises à l'encontre de ces villageois cessent.
Une autre petite question, parce qu'on parlait de la résistance palestinienne, mais il y a aussi à Israël, dans Israël, aussi des comités de résistance qui subissent eux aussi encore plus de violence, entre guillemets, parce que il y a eu des manifestations pacifiques qui ont eu lieu aussi d'Israéliens, par des anarchistes, par des gens pour la paix, et qui sont matraqués. Conspués par les orthodoxes intégristes israéliens. Là aussi, je crois qu'il y a un travail aussi de communication, parce qu'on en parle très très peu. Et je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel toi, ça t'intéresse d'en parler ou...
Oui, tout à fait. Non, mais d'autant qu'en fait, ces Israéliens dont tu parles, on les retrouve aux côtés des Palestiniens dans les manifestations non violentes. Alors ces gens-là ont un courage vraiment important, parce que quand on est israélien, on n'a pas le droit de se rendre dans les territoires palestiniens.
Qu'est-ce qu'ils risquent ?
C'est surtout... ils risquent essentiellement l'humiliation de la part de leurs propres militaires, c'est-à-dire des militaires israéliens, mais ils peuvent éventuellement aussi risquer des peines de prison. Mmh. Voilà. Ça, c'est un risque réel. Et en tout cas, le premier risque qu'ils ont, c'est un isolement social. Ce qu'on constate quand même chez tous ces militants, c'est que très souvent, dans leur famille, le fait que des Israéliens aillent manifester aux côtés de Palestiniens, c'est pas quelque chose de compris. Et donc pour eux, ça veut dire un isolement et un bouleversement familial et social très important. Ça peut être aussi perdre son travail. Si votre patron apprend que vous allez manifester avec des Palestiniens, quand on est israélien, c'est... Voilà. Donc les risques sont quand même élevés.
Oui. Et en Palestine, avec le gouvernement précédent à celui-ci, Chirac avait quand même une attitude amicale avec la Palestine et les Palestiniens.
Vous voulez dire deux gouvernements en arrière. Entre-temps, il y a eu le gouvernement d'Union nationale, qui était donc composé également du Hamas. Enfin, où le Premier ministre était issu du Hamas, il y a eu ce gouvernement-là qui a été...
Tout à fait, oui.
Voilà. Et qui, lui, n'a bénéficié d'aucun soutien de la communauté internationale. Je vous dis ça parce que actuellement, je crois, parce qu'on n'a pas soutenu ce gouvernement parce qu'il y avait des extrémistes. Vous comprenez bien, le Premier ministre était un extrémiste. Mais il me semble qu'actuellement, dans le gouvernement israélien, le poste le plus important, donc l'équivalent finalement du Premier ministre, c'est le poste du ministère des Affaires étrangères. Et que ce poste est tenu par un extrémiste.
Tout à fait, oui.
Mais je peux aussi rajouter, puisqu'on parle souvent de la charte du Hamas, qui pose problème, puisqu'elle ne reconnaît pas l'existence d'Israël, mais la charte du Likoud, le parti politique de M. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, ne reconnaît non seulement pas l'existence de la Palestine, mais même pas du peuple palestinien. Dans sa charte, il y a décrit qu'ils devront reconquérir ces terres vierges de Judée-Samarie, qui est le nom biblique donné à la Cisjordanie. Voilà. C'est pour dire que la charte du parti politique de M. Benjamin Netanyahou est tout aussi inadmissible que la charte du Hamas. Mais je constate que là aussi, il y a un deux poids, deux mesures, parce que nous n'avons eu aucun problème pour reconnaître et accueillir M. Netanyahou, alors que le gouvernement d'union nationale dans lequel il y avait des éléments du Hamas, là, on a eu un rejet total.
Et qu'on attend toujours depuis 60 ans la création, la reconnaissance d'un État palestinien qui a été décrété par les instances internationales, à savoir l'ONU.
Oui.
Voilà. Bon, bah, pour conclure, Eric, peut-être que ces différents documentaires à faire ou faits ou à faire, si on veut, tu veux les diffuser au maximum.
Bien sûr.
T'as un contact, comment on fait pour... ça existe en DVD ou ça existe...
Ça existe effectivement en DVD.
T'as un site, une adresse comment on te contacte, quoi?
Comment on me contacte? J'ai un mail. si on tape mon nom et mon prénom sur Google, en général, on trouve mon mail.
Alors, Eric Bies, ça s'écrit B-I-E-2-S-E.
Voilà.
Et avec ça, on se débrouille.
Et tu fais collection de toutes les lettres anonymes, après.
Voilà. D'accord. Je fais collection des lettres anonymes, effectivement. D'accord. Mais on peut aussi me joindre par le blog de soutien à Salah Hamouri.
D'accord.
Puisque c'est moi qui l'anime.
Okay. Voilà. Le monde est petit.
Pas encore de site.
Le monde est encore plus petit parce qu'on parlait tout à l'heure de certains Israéliens. Il faut savoir qu'en Israël, il y a des gens qui réagissent quand même. Et il y en a un qui est bien connu, il s'appelle Michel Varchavski.
Qui travaille.
Et il travaille à Ciné Hebdo. Et notre prochain invité, voilà. C'est Ciné Hebdo.
Une partie de Ciné.
Bienvenue, Ciné.
Merci, Eric.
Au revoir à tous.
Un peu de musique et on se retrouve dans quelques instants.
Voilà, il est presque midi moins 10 pour mon compte et pour ma personne. Eh bien, je vous quitte aujourd'hui. Je vous retrouve dimanche prochain à 9h15 si vous voulez bien. Et rendez-vous avec Groland aux alentours de 12h30 avec la nouvelle équipe. Je vous laisse en compagnie des programmes de Jean Raymond, bien sûr. Salut, au revoir.
Nimisa dugaden na bila mondi wana kantigi juya to sala sangare umunyo ina tangali
alaidu
kiriye wadu ka koni ya to sala
alaidu
kiriye akira la juya to tin
alaidu kiriye
kana siji baina nyu na bila mondi
alaidu
kiriye ina yaro juya baba yi Mokaduni kono fonyo nunche jeka gele nyona bila makui
Nimisa duga den na bila mondo wana kantigi jugu yata sala
Marine Médicis, qui était quand même une conne, on l'a débaptisée, on l'a appelée Fontaine des Femmes Fontaines, tu vois, c'est quand même c'est joliment mignon. Plus poétique, tu ouais. vois, imagine une fontaine pour rendre hommage au point G, tu vois, c'est extraordinaire quand même.
Et est-ce qu'on pourrait pas, par exemple, sur les plaques marquer enculé?
Alors on peut militer pour laisser le nom par exemple rue Thiers,
ouais.
enculé notoire.
Là on peut dire gros enculé.
Rue Thiers, enculé ouais. notoire, responsable de tant de millions de morts. Par exemple Léopold II quand même. Léopold
oui,
II,
lui, c'est un beau celui-là.
C'est un des plus gros enfoirés que ouais. j'ai fait. Il a des rues partout cet enfoiré. Alors et alors les Belges en sont très fiers. Oui. Alors ce mec, il a des rues. Tu vois. Alors c'est un mec immonde. C'est un immonde. Il était propriétaire d'un pays. Il a exploité les gens, il a tué des gosses, il a fait 2 millions de morts.
C'était le Congo.
C'était le Congo. Après, il a fait, une fois qu'il allait presque claquer, il a fait cadeau à son pays. Bon, bah, ça, c'est pas. Hein. Et donc, c'est vraiment une énorme salope. Et ce mec, il a sa rue partout. Ah, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible.
Il y a quand même pas mal d'enculés, donc c'est vrai, dans les rues. Et
mais sinon, mais dans la vie aussi. C'est proportionnel. Alors, ouais, c'est... alors d'ailleurs, ils peuvent venir là à la radio. Hein. Qu'on les voit de près.
On les attend.
Mais généralement, à Groland, il n'y a pas d'enculé.
Moi, il y en a moins
ils qu'ailleurs. Ils sont à l'extérieur de Groland, tu vois. Ils sont tout autour. Tout autour. Pour le soir, là, attention, il y a beaucoup d'enculés.
On a beaucoup d'enculés alcooliques, surtout.
Dans les repères, hein, généralement.
Justement,
ils ont une même tenue.
T'as pas repéré une rue ici sur Quimplage?
Non, j'ai pas repéré une rue. On m'a parlé d'une rue un peu bizarre, mais c'est à rue.
Oui, à rue.
D'un croisement de rue à rue.
Voilà, un croisement de rue à rue.
C'est Raymond.
Bon, alors, sinon, sérieusement, Ciné Hebdo, pourquoi tu es rentré à Ciné Hebdo?
Alors, moi, je connais Bob. Bob, c'est le nom qu'on donne à Ciné. Ouais, voilà, donc Bob. Moi, je connais Bob depuis longtemps.
Si quelqu'un connaît pas Bob,
on a une photo.
Alors,
on a
la photo de Bob. C'est un enfoiré parce qu'il est devenu. Il veut rentrer au MEDEF. Enfin, il est rentré au MEDEF vu que c'est un patron de presse.
Voilà.
Et alors, moi, j'ai rencontré
Bob. C'est sa tenue
Bob,
de travail. Hein.
Ouais, j'ai rencontré Bob dans une circonstance particulière. On regardait un concert de il y a longtemps, il y a 15 ans. On regardait tous les deux, on regardait un concert. Et puis, j'ai vu à côté de moi ce mec. Il a bu une bouteille de rhum pendant le concert.
C'était de la salsa, tu crois?
Ouais, de la salsa, ouais. Et alors, à la fin, je le suis parce que je discute avec lui, on sympathise. Il connaissait Coltrane et moi aussi. Et il monte sur son scooter et il tombe. Alors j'ai dit, écoute, monte dans la voiture, ma femme va te ramener, puis moi j'ai ramené ton scooter. C'est comme ça qu'on a fait connaissance, en fait. Ça crée des liens, quoi, le rhum. Donc moi, j'ai fait des études sur les rhums après.
On comprend bien.
Tout est logique ici.
Tout se tient, quoi.
Donc toi, t'as participé à... Donc,